7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Pourquoi la région du Haut-Karabakh est-elle aujourd'hui aux prises avec des combats au centre de tension entre deux anciennes républiques soviétiques? On va essayer de vous expliquer cela avec Florent Parmentier. Bonjour, vous êtes politologue, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po. Il faut tout d'abord nous situer cette région.
Bonjour. Alors, oui, où en est-on dans le Haut-Karabakh? Rappelez tout d'abord que nous sommes dans le Caucase, cette montagne des langues. Cette montagne des langues avec une diversité ethnique, humaine, religieuse, que l'on retrouve dans l'antagonisme entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas un conflit seulement ethnique, ou en tout cas une opposition entre deux blocs. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une crise qui perdure depuis en réalité assez longtemps. Et que à l'issue de l'URSS, un certain nombre d'affrontements ont eu lieu dans ce Haut-Karabakh. À partir de la fin des années 88, on a vu un certain nombre de situations conflictuelles qui ont mené à un conflit qui a fait 30 000 morts. Et à l'issue de cette guerre, un cessez-le-feu a été conclu en 1994, mais un cessez-le-feu n'est pas un traité de paix. Et depuis lors, en réalité, la situation est celle de deux pays qui pourraient se retrouver de nouveau sur le chemin de la guerre. D'ailleurs, en avril 2016, il y avait eu une autre série d'affrontements de 5 jours qui avait fait une centaine de morts. Donc une situation dans laquelle, finalement, le conflit n'est pas réglé.
Alors, c'est une surface relativement restreinte que cette région du Haut-Karabakh. C'est un petit département français, mais ce qui rend ce conflit essentiel pour la géopolitique, ce sont les pays qui entourent non seulement cette région, mais aussi qui sont les différents protagonistes de ce lieu. Vous parliez d'une montagne des langues pour les Azéris, pour l'Azerbaïdjan. C'est un pays turcophone. Autrement dit, ça donne une idée déjà des alliances des Azéris.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que à ce sujet, à Ankara, on parle finalement d'un pays, enfin d'un peuple et de deux pays. Donc on a cette idée effectivement d'une proximité extrêmement extrêmement forte. Et l'Azerbaïdjan est effectivement soutenu dans la crise actuelle par la Turquie. De l'autre côté, les protagonistes sont à la fois du côté de l'Arménie, la Russie. Puisque la Russie, on pourrait y revenir à une base militaire. La 102e base russe est de 4000 personnes à peu près, se trouve en Arménie. Et puis il y a également, peut-être de manière plus surprenante à première vue, l'Iran, qui fait partie des soutiens de l'Arménie, avec tout un tas finalement d'implications.
C'est surprenant parce que l'Arménie n'est pas un pays musulman, et on pourrait imaginer que l'Iran soit du côté des Azéris. Pourquoi n'est-ce pas le cas ?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arménie, finalement, s'est convertie au christianisme en tant que religion d'État avant l'Empire romain. Ça donne quand même une perspective historique de long terme. La raison pour laquelle l'Iran est tenu, effectivement, ou en tout cas encourage plutôt l'Arménie, ce n'est pas seulement ses relations avec la Russie qui déterminent ça, c'est également le fait que l'Arménie a une solide minorité azérie sur son territoire. Donc l'Iran, de ce point de vue-là, voilà, a des relations un peu méfiantes vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, mais aussi vis-à-vis de la Turquie. Donc on voit effectivement que dans ce cadre-là, une théocratie chiite va plutôt soutenir un État finalement avec lequel elle a plus d'intérêts stratégiques que d'intérêts confessionnels.
Mais alors, rien n'est simple. La position de la Turquie vis-à-vis de l'Arménie, là, en revanche, c'est quelque chose de tranché. Vous venez d'évoquer l'Iran. En revanche, pour la Russie, le rapport entre la Russie et les Arméniens n'est pas quelque chose d'apaisé, Florent Parmentier.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie connaissait bien les deux protagonistes, à la fois parce que ce sont deux anciennes républiques soviétiques, ça c'est le premier point, et le second point, c'est qu'aujourd'hui, la Russie vend des armes aux deux côtés. Elle vend des armes généralement un peu plus sophistiquées à l'Arménie, ou un peu plus tôt, donc elle a tendance, plus ou moins en fait, à soutenir un peu plus l'Arménie, mais dans le cadre présent, en réalité, elle ne peut faire l'impasse sur aucun des deux protagonistes. Ce qui fait que la Russie va essayer de se positionner comme pays neutre. La vraie question, et c'est ça que teste en ce moment Recep Tayyip Erdogan, c'est de savoir jusqu'où elle sera neutre et de savoir si, comme en 2016, une voie viendra du Kremlin pour dire arrêter le conflit maintenant, on va arrêter ou je m'en chargerai moi-même, ou si la Russie va laisser faire, entre guillemets, le conflit actuel et voir un petit peu de quel côté finalement la solution militaire se trouvera.
Bon, on a bien entendu tout à l'heure aux informations qu'il y avait une question d'enjeux économiques et énergétiques dans cette région et aussi un enjeu de récit national, Florent Parmentier.
Oui, les deux sont effectivement exacts. C'est finalement l'Azerbaïdjan qui dispose des ressources historiquement de pétrole, puis de gaz aujourd'hui. L'Azerbaïdjan est de ce point de vue-là un partenaire important pour la circulation des hydrocarbures et du gaz et la consommation de gaz en Turquie. Du côté des récits nationaux, là aussi, il faut savoir voilà que l'Arménie a eu historiquement des territoires extrêmement variables au fil du temps, que ce territoire est partagé, comme beaucoup d'autres territoires, entre deux récits nationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de perspective de règlement du conflit. On sent que d'un côté comme de l'autre, du côté arménien, du côté de la diaspora arménienne, mais aussi du côté des Arméniens du Haut-Karabakh, comme du côté de l'Azerbaïdjan, ce qui pousse aujourd'hui à la déstabilisation, c'est davantage le renforcement de l'Azerbaïdjan, qui est un État aujourd'hui trois fois plus peuplé que l'Arménie. Et donc, le déséquilibre de force vient précisément de ses ressources gazières. L'Arménie est face à un État qui accumule des ressources militaires, économiques, diplomatiques. Et donc, dans ce cadre-là, l'Azerbaïdjan tente finalement de savoir quel sera le bon moment pour attaquer. Aussi, voilà, parce que elle estime que 20% de son territoire est occupé et que ni d'un côté ni de l'autre, en fait, il n'y a de véritable désir, entre guillemets, de régler ce problème territorial.
Bon, mais on peut imaginer néanmoins, Florent Parmentier, que les trois grandes puissances, la Turquie, l'Iran et la Russie, n'ont pas intérêt à ce que le conflit dégénère.
Oui, et on peut même aller au-delà de ça. C'est-à-dire, si on regarde bien, aujourd'hui, le conflit au Karabakh est médié depuis un certain nombre d'années. Il y a une instance de médiation qui est le groupe de Minsk. Dans ce groupe de Minsk, il est intéressant de noter que c'est l'un des derniers espaces de discussion entre les États-Unis, les Européens et la Russie. Et dans le cadre où, précisément, sur tout un tas d'autres sujets, sur Alexei Navalny, sur la Biélorussie, sur un certain nombre d'autres sujets, sur la Syrie, on voit bien les difficultés de dialogue avec la Russie. Et donc là, il y a l'un des canaux qui fonctionne encore. Donc il y a à la fois les puissances régionales proches, qui sont très impliquées, mais aussi probablement, à un moment donné, la France, les États-Unis auront leur mot à dire sur cette crise, avant qu'elle ne dégénère, évidemment.
Alors, quel est pour vous le scénario le plus plausible aujourd'hui ?
Eh bien, on peut faire trois scénarios, à peu près, dans les évolutions. On peut imaginer un retour au calme assez rapide. C'est le scénario peut-être pas le plus optimiste, mais en tout cas, ce scénario calme, comme en 2016, avec cette idée que les deux protagonistes ont certainement envie d'en découdre, les opinions publiques sont très mobilisées, mais qu'in fine, régionalement, Moscou dira à un moment donné « arrêtez avant que je ne m'en mêle de trop près ». C'est la première hypothèse. La seconde hypothèse serait de se dire il y a un dérapage. Il y a un dérapage pas contrôlé, les opinions publiques sont chauffées à blanc, les dirigeants n'ont pas nécessairement envie d'y aller, mais sont obligés quand même de suivre leur opinion publique. Et donc ce scénario de dérapage a sa crédibilité. Et c'est ça effectivement dont il faut se défier. Et puis, il y a une troisième hypothèse qui serait celle de la pacification de la région pour éviter précisément la guerre d'après. Mais de ce point de vue-là, on peut malheureusement regretter que les esprits ne sont pas prêts pour ce développement.
Merci beaucoup Florent Parmentier. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre l'Europe et Russie aux éditions des presses de Sciences Po. Il est 7h23 sur France Culture.